L'évangile que nous entendons, comme beaucoup des évangiles que nous entendons le dimanche, nous le connaissons bien. Ce commandement de Jésus, ce résumé des commandements que Jésus nous donne, nous le connaissons bien. À l'époque de Jésus, et encore aujourd'hui, chez les Juifs, c'est une question assez courante qu'ils se posent, de savoir, parmi les 613 commandements, car il y a 613 préceptes pour un Juif pratiquant, eh bien, parmi les 613 préceptes, quel est le plus important? Et parmi ces préceptes, il ne faut pas trop vite dire qu'ils sont sans intérêt, ces 613 préceptes, parce qu'en fait, beaucoup d'entre eux sont des invitations à se souvenir de Dieu. Par exemple, quand on se lève, il y a un commandement qui demande qu'on fasse une prière à Dieu. On prie Dieu quand on se lève. Ensuite, quand on se lave, on prie Dieu. Ensuite, quand on mange, on prie Dieu, etc. Ainsi, toute la journée est parsemée de bénédictions et de prières à Dieu. Nous n'avons plus tous ces 613 commandements parce que nous sommes invités, nous allons le voir, à vivre les choses de façon renouvelée avec l'aide du Saint-Esprit. Et Jésus nous y aide par cet évangile. Donc parmi les 613 commandements, quel est le plus important? Alors peut-être que nous, qui connaissons moins les 613 commandements juifs tirés de la Torah, donc du Pentateuque, des cinq premiers livres juifs, eh bien, nous aurions dit spontanément, c'est les 10 commandements. Et d'ailleurs, les 10 commandements sont toujours valides, complètement valides. Ils sont donnés par Dieu directement. Hein, Dieu parle rarement directement. Il parle par ses prophètes. Dans l'Ancien Testament, il parle à certains moments directement et en particulier au Sinaï, où il écrit lui-même les tables de la loi, les 10 commandements. Ensuite, évidemment, Dieu parlera directement dans le Nouveau Testament par Jésus, puisque Jésus est Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, voilà. Il parle, donc il écrira directement les tables de la loi au Sinaï, et c'est dans le livre, donc un des livres de la Torah, le livre du Deutéronome, au chapitre 5, où il nous est donné les 10 commandements. Vous les connaissez tous, mais je les rappelle. On ne sait jamais. Faire une révision. « Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Excusez-moi. Hein. Voilà, c'est bien, je vois que vous suivez, c'est super. « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Voilà, le Seigneur nous le dit. C'est important de réaliser que la négation qu'il y a dans la deuxième partie, d'ailleurs c'est beaucoup plus développé, là je fais un résumé, dans le Deutéronome, la négation, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est-à-dire que le danger qui nous guette, nous aussi, c'est d'avoir d'autres dieux que Dieu, d'avoir des idoles. Et il y a plein de manières d'avoir des idoles. Voilà. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Observe le jour du Shabbat comme jour sacré. Alors, évidemment, avec la mort et la résurrection de Jésus, les chrétiens ont transformé ce troisième commandement en disant « Tu observeras le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, hein, dies domini, aujourd'hui, comme un jour sacré. » Espérons que nous le fassions. « Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. » Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras rien de ce qui appartient à ton prochain. Je les ai dit vite. Si vous voulez les approfondir, allez dans le catéchisme de l'Église catholique pour reprendre ces 10 commandements qui sont importants, qui sont des repères pour nous. À travers ces 10 commandements, Dieu établit une limite. Il redonne à l'homme un sens morale, un sens de l'agir, un sens de la vie. Il établit une limite au-delà de laquelle, eh bien, nous coupons notre relation avec le Seigneur. Et nous savons qu'à travers ces commandements, quand nous les appliquons, eh bien, nous continuons à être en relation avec le Seigneur. Voilà. Mais vous aurez remarqué aussi qu'ils sont pratiquement tous négatifs. C'est à travers des négations que Dieu enseigne son peuple. Aussi Jésus, dans la nouveauté qu'il va apporter, il va nous enseigner positivement, ce qui ne va pas pour autant nous simplifier la vie. Parce que, voilà, nous allons le voir, le Seigneur nous donne des perspectives. Mais il va nous enseigner positivement. Il veut que les commandements soient positifs et qu'ils soient dynamiques. C'est-à-dire que nous ne soyons pas comme des pharisiens, comme des formalistes qui accomplissent un certain nombre de règles et disent « moi je suis tranquille, je dors tranquille, je suis un bon chrétien, je suis sauvé ». Pour ceux qui ont peur de l'enfer, ils disent « je suis sauvé ». Pas beaucoup qui ont peur de l'enfer, mais c'est comme ça. Mais bon, je suis sauvé. Et puis aussi, bon, mais là, j'ai fait plutôt... j'ai donné 2 euros à la quête. Et en plus, j'ai été sympa avec le voisin. Donc, ça devrait aller. Voilà. Et donc, un petit peu une sorte de superficialité chrétienne auquel le Seigneur veut nous préserver. Dont le Seigneur veut nous préserver. Aussi, il nous donne des commandements positifs et dynamiques. Le premier commandement, alors vous l'avez entendu et vous le connaissez par cœur, le premier commandement, c'est tiré du Deutéronome, c'est donc tiré de la Torah, c'est tiré de la profession de foi d'Israël que, entre parenthèses, les Juifs, encore aujourd'hui, récitent plusieurs fois par jour. Je ne suis pas sûr que nous le fassions. Récitent plusieurs fois par jour. Et Jésus donc dit, « Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Erad ». Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Il n'y a qu'un Dieu, c'est le Seigneur. Écoute, Israël, l'invitation à écouter Dieu qui parle réellement dans nos vies, et qui parle par sa parole, à travers son Église, mais aussi parle directement dans nos vies. Et le Seigneur est vraiment notre Dieu. Et ensuite, il continue, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit ou de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route. » Et quand tu seras debout, c'est-à-dire quand tu dors pas, en fait, tu en feras un signe attaché à ta main, une marque passée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants des portes de ta maison et à l'entrée de ta ville. Autant dire que ce commandement doit être présent dans toute la vie. Quand il est dit qu'il faut l'avoir à la main, ça veut dire dans ton agir. Quand il est dit qu'il faut l'avoir sur le front, ça veut dire dans ton intelligence. Ton intelligence doit se convertir en fonction de l'unicité de Dieu et de sa présence dans ta vie. Quand il dit dans ton cœur, sur ton cœur. Les Juifs le font physiquement. Ils mettent cette profession de foi dans des petits rouleaux et qu'ils mettent dans des petits étuis de cuir ou de bois et qu'ils portent pour les prières, ou bien qu'ils mettent à l'entrée de leur maison ou à l'entrée des villes. Voilà. Aussi, cette parole, c'est ce que le Seigneur dit. Voilà le premier commandement. Et Jésus ajoute, voilà le premier commandement. Il ne dit pas, voilà, c'est un commandement important. Il dit le premier commandement. Et ce qui lui donne un poids énorme à ce commandement. Et nous devons le prendre très au sérieux. Le Seigneur nous invite à l'écouter et à le prendre comme notre Dieu et à vivre totalement avec lui. Et puis ensuite, Jésus ajoute le second commandement et qu'il dit qu'il lui est semblable. Et là aussi, des mots lourds de signification et d'interpellation. Le deuxième commandement, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements, le Seigneur n'en fait qu'un. Alors ensuite, il dit de ces deux commandements, il précise bien que c'est deux commandements, mais l'un et l'autre vont ensemble, qui lui est semblable, vont ensemble. Et Jésus précise, de ces deux commandements dépend toute la loi, autrement dit toute la Torah, les 5 premiers livres c'est les livres, les cinq premiers livres de la Bible pour les Juifs sont les livres, l'équivalent des évangiles pour nous. C'est les livres les plus importants. La Torah et les prophètes, c'est-à-dire tous les autres livres de l'Ancien Testament. Et donc, le Seigneur nous dit bien, vivez les deux commandements. Dieu, le prochain, vivez-le totalement, vivez-le radicalement et de façon dynamique. C'est-à-dire qu'il nous faut continuellement se demander qu'est-ce que veut dire aimer son prochain comme soi-même. Il faut continuellement se demander, est-ce que j'aime le Seigneur suffisamment ? Entre parenthèses, dans la profession de foi juive, qui est aussi la nôtre donc, eh bien, le Seigneur dit, il ne dit pas « tu croiras au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », il dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». On peut croire et pas aimer. On peut être à l'église et pas aimer Dieu, en fait. Même les prêtres, hein, on peut... D'ailleurs, on n'aime pas assez Dieu. On ne l'aime pas assez. Donc, le Seigneur nous invite à l'aimer et à aimer notre prochain. Tu aimeras ton prochain. Alors, comment faire pour rentrer dans cette dynamique que nous proposent ces deux commandements qui n'en font qu'un? Eh bien, notre modèle, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui nous a aimés et qui a aimé son Père, qui a obéi à son Père et qui a servi les hommes de façon exemplaire. Et le moment, le sommet de cet exemple, c'est au moment où Jésus, comme un malfaiteur, va être condamné faussement et tué comme un malfaiteur à notre place, par amour de son Père et par amour des hommes. C'est notre modèle. C'est cela que nous sommes invités à vivre, de différentes manières dans notre vie quotidienne, dans les petites choses comme dans les grandes, dans notre quotidien, dans le martyr, s'il nous est présenté un jour, mais peut-être simplement dans les petites actions de la vie quotidienne. Et ça implique beaucoup, d'où l'importance de méditer le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, de méditer la vie de Jésus pour pouvoir nous-mêmes ensuite nous laisser agir à notre tour. Donc le Seigneur, c'est notre modèle, en particulier dans sa mort et sa résurrection. Et dans l'Eucharistie, nous avons ce mouvement de Jésus, cet exemple de Jésus qui nous est donné, puisque l'Eucharistie rend présent la mort et la résurrection de Jésus. Jésus meurt pour chacun de nous à chaque messe. Enfin, il est mort une fois pour toutes, hein, on est d'accord, mais à chaque messe, ça nous est redonné comme tout nouveau, pour chacun. Il le fait pour que nous ayons l'exemple, que nous soyons sauvés et que Jésus soit un exemple. Il nous faut être nourriture les uns pour les autres. Alors voilà, l'Eucharistie est notre modèle. Nous sommes invités à marcher à la suite de Jésus en prenant l'exemple sur Jésus et sur l'Eucharistie. Et puis c'est ainsi que tous les saints ont fait, hein, qui nous ont précédés, les saints que nous allons fêter d'ici deux jours. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est par Jésus-Christ, avec l'aide de l'Eucharistie. Et comme dit saint Paul aux Galates, puisque l'Esprit est notre vie, laissons-nous conduire par l'Esprit et demandons à l'Eucharistie de convertir nos cœurs. Amen.